L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdrille.
Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée pour cette deuxième semaine dans ce nouveau décor. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, nous allons partager sur les leçons des 10 lépreux. On va parler de ces lépreux qui ont crié à Jésus pour leur guérison. Et comme un peu on l'a fait pour Marthe et Marie, on va rester sur un texte pendant toute cette semaine. Et on va terminer avec un psaume. Vendredi, 28 minutes de prière avec le psaume 113, psaume de reconnaissance. Et on passera un temps vraiment dans la présence de Dieu, un temps béni, un temps glorieux. Et aujourd'hui, on va partager sur la crainte de Dieu. Cette semaine, on aura l'occasion de partager sur l'obéissance, le fait de dire merci, la reconnaissance à Dieu. Et on est heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. On a fait quelques petits ajustements, comme on vous l'a dit. Et dans les prochaines semaines, on va continuer d'améliorer toutes nos émissions sur ces nouveaux décors. Et aujourd'hui, j'ai la grâce encore d'avoir Gordon avec moi. Je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est une grande bénédiction. Et aujourd'hui, il est là malgré une nuit courte, puisque Gordon est à nouveau papa. Un nouveau papa, on te félicite. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Donc, avec son épouse, un deuxième enfant, un beau garçon, Miles. J'espère que je l'ai bien dit. J'ai bien dit. Excellent, comme Miles Monroe. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ça s'est passé hier matin. Bon, maintenant, vous voyez l'émission quelques jours plus tard. Mais hier matin, et Gordon est au rendez-vous avec nous, on ne peut que remercier le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que Dieu vous fasse la grâce si vous aussi vous souhaitez avoir un enfant. Annabelle en a parlé dans le live pour la 1000e émission de Parole de Femme avec ce beau témoignage de cette sœur. Et je prie que si c'est votre cœur avec votre mari ou avec votre épouse, que vous puissiez vraiment voir cet exaucement de la part de Dieu, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre, parce que Dieu vous aime et il est avec vous. La crainte de Dieu. On va partager sur ce texte de Luc au chapitre 17. Et je vais reprendre un peu la lecture de témoignage. Aujourd'hui, on a un témoignage de Rachel qui dit « J'aimerais rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite. Après avoir respecté mes engagements vis-à-vis de Dieu, j'ai été guérie d'une boule à l'intérieur de mon sein et cette boule a duré 9 ans. Et pour cela, j'ai été dispensée de tout le parcours de mon année scolaire. Dieu soit loué au siècle des siècles. » Gloire à Dieu, on est reconnaissant au Seigneur de ce qu'après un acte d'obéissance, d'engagement qui a été respecté, il y a une guérison qui s'est manifesté, et on est reconnaissant au Seigneur pour cela. Merci Rachel pour votre témoignage. Gloire à Dieu. Luc chapitre 17, verset 11. Luc chapitre 17, verset 11, il est écrit « Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. » Alors il faut dire une chose ici, c'est que Jésus donc est en direction de Jérusalem et il est écrit, Luc choisit de faire passer la Samarie avant la Galilée. Or, c'est le contraire. Donc, Luc veut déjà, dès le premier verset, première phrase sur le thème des 10 lépreux, en introduction, il fait passer la Samarie avant la Galilée. Alors que normalement, ça aurait dû être la Galilée, la Samarie, Jérusalem. Et donc, la Galilée, Samarie et Jérusalem. Et il veut nous faire conscience, prendre conscience de quelque chose ici. C'est l'importance de ces Samaritains qui sont exclus et vus comme exclus par les Juifs. Petite parenthèse. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors on va rester sur ce texte pendant cette semaine. Et on voit donc ces 10 lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus. Quelques jours plus tôt, a été rejeté d'un village des Samaritains. Et il persévère, il continue et il entre dans ce village. Et alors qu'il va entrer dans ce village, à l'entrée du village, 10 lépreux sont là et voient Jésus, le Maître, Jésus, le Messie. Et je ne sais pas pour vous, mais si j'avais été dans la condition des lépreux, en sachant qui était Jésus, en sachant et en ayant appris tous les miracles qu'il avait faits, il m'aurait été difficile de laisser Jésus entrer dans le village sans courir, me prosterner à ses pieds, l'attraper peut-être par les pieds, le prendre dans mes bras pour pas qu'il parte, le supplier de me guérir. Et il faut que les lépreux agissent vite, parce qu'une fois que Jésus entre dans le village, ils ne peuvent plus y entrer. Les lépreux, par leur condition physique, étaient exclus, ils étaient bannis du reste de la société, et jusqu'au soir, ils devaient comme rester cachés, en dehors de la ville en tout cas. Et Jésus passe, la solution passe, le remède passe, le miracle passe, le surnaturel passe, Dieu passe devant eux, et c'est le moment, c'est leur moment ou jamais d'obtenir leur guérison. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui veulent être guéries quand certains évangélistes peut-être passent quelque part. Il y a des gens qui sont prêts à tout. La Bible dit que des gens se jetaient sur le Seigneur Jésus-Christ pour être guéris de leur maladie. Il avait un protocole et les disciples étaient parfois obligés de rejeter certaines personnes ou d'éloigner certaines personnes. Même Jésus, à un moment, va dire ben, « on va prendre la barre » parce qu'il y avait tellement de gens et les gens, ils écrasaient Jésus. Comme on peut le voir dans certains effets de masse, bains de foule, Jésus est là. Et donc, pour eux, c'est vraiment le moment ou jamais d'être guéri et d'interpeller le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le moment de leur vie. Il n'y aura certainement pas une opportunité comme cela. Il y avait quand même beaucoup de villages en Israël. Et là, ils se retrouvent à l'endroit où ils sont. C'est comme pas un hasard. Et en même temps, ça a l'air... Jésus passe. Et la Bible dit, et ça, c'est intéressant... Contrairement à d'autres personnes, à d'autres lépreux, à d'autres aveugles, et particulièrement d'autres lépreux, ils ne se jettent pas aux pieds de Jésus, mais ils se tiennent à distance. Ils se tiennent à distance. Pourtant, et malgré leurs conditions, ils ne se jettent pas sur Jésus, ils se tiennent à distance. Vous savez comme moi que pour être guéri de leur maladie, des gens seraient prêts à payer des millions. Et s'ils n'ont pas des millions, ils seraient prêts à donner leur maison, à donner leur bien, à donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir être guéris. Jésus se trouve en face d'eux. Et on ne sait pas pourquoi, mais on va le découvrir, ils se tiennent à distance. Et si, et je l'ai déjà fait remarquer dans une émission pré-inspirée, dans cette crise du Covid, vous avez vu certainement comme moi ces vidéos où des gens se sont battus pour du papier toilette. Alors imaginez-vous que ce que quelqu'un pourrait être capable de faire pour recevoir son miracle. Ils étaient lépreux, ça veut dire qu'ils étaient exclus de la société. Ils étaient malades et ils étaient vus comme maudits. Et la solution est devant eux. Et pourtant, ils se tiennent à distance. En fait, il y a quelque chose de spécial, de particulier. Et leur seul moyen, le moyen qu'ils vont utiliser pour attirer Jésus à eux, c'est la voix, leur cri. Mais qui va écouter la voix d'un lépreux ? Qui va écouter la voix d'un maudit ? Qui va écouter la voix d'un exclu? De ceux qui vivent à l'écart des villes et des villages. Et d'ailleurs, la Bible nous montre une seule qualité de qui ils sont, c'est qu'ils sont lépreux. On ne parle pas de leur nom, on ne parle pas d'où ils viennent, si ce n'est à la fin où on aperçoit qu'il y a un Samaritain parmi eux, peut-être plusieurs. On les voit juste à travers leur condition de lépreux. Je ne sais pas quelle est ta condition, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas comment te voient les gens à cause de ta condition. Je ne sais pas comment toi-même tu as un regard tourné vers toi et comment tu peux te voir. Mais eux, une chose est claire, pour la société, pour la religion, c'est comme si ces gens n'existaient plus. Ils étaient considérés comme impurs sur le plan humain et sur le plan religieux. Exclus de toute vie sociale, exclus de toute vie religieuse, exclus de toute amitié, si ce n'est les gens qui étaient comme eux. L'exclusion totale. Et là, ils appellent Jésus. Jésus, maître, aie pitié de nous. Et ils vont utiliser un mot que les disciples parfois employaient pour montrer qu'ils parlaient à un responsable, donc maître. Et la distance qu'ils ont laissée entre eux et Jésus est telle qu'ils sont obligés de crier vers Jésus. Ils crient vers lui, leur seul espoir. Mais il n'y a pas de barrière physique, ils peuvent courir. Et pourtant, ils se retiennent. Ils se sentent indignes de par leur maladie, devant la beauté de Jésus-Christ, devant le grand Jésus dont tout le monde parle. C'est comme des fois, il y a une star dans le monde et tout à coup, cette personne, elle est vue comme quasiment comme Dieu. Et les gens sont là, ils sont tout excités s'ils peuvent voir la star, s'ils peuvent prendre une photo. Vous voyez ? Mais là, c'est Jésus, le grand Jésus. Et ils se sentent indignes et ils gardent leur distance. Ils gardent une position d'humilité. Alors que dans leur maladie, dans leur souffrance, il y a plusieurs personnes qui continuent de choisir l'orgueil. La Bible dit que Asa eut une très grave maladie des pieds dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. Toutefois, même pendant sa maladie, il consulta les médecins et il ne consulta pas l'Éternel. Donc on peut être malade et rester dans l'orgueil, et on peut être malade et continuer de marcher dans l'humilité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va les voir comme un passant pouvait les regarder de loin. Et au lieu que Jésus s'approche d'eux pour démontrer une compassion, pour démontrer un amour, pour démontrer la bienveillance, qu'il n'y ait pas de jugement, ils sont là dans leur situation, dans leur maladie. Le Sauveur, et dont ils ont entendu parler, ils savent qui est Jésus, qui a touché le lépreux, qui a été guéri, qui a fait avec sa salive un peu de poussière qu'il a appliqué sur les bouts, sur les yeux de l'aveugle, qui a été guéri. Mais là, Jésus les regarde et il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Je ne sais pas vous, mais je sais qu'en tout cas, un grand nombre de personnes, si ça arrivait dans les conférences où j'ai été, quand on m'a demandé de prier pour les malades, et que je disais, eh bien, allez voir votre pasteur. Et comment les gens auraient réagi? En fait, c'est choquant, c'est troublant, parce qu'en plus, ils ont l'habitude du jugement des autres. Ils ont l'habitude que les gens les regardent et qu'ils les jugent. Et pourtant, ils vont obéir à Jésus. Ils peuvent voir Jésus comme, ah bien, encore un de plus qui me juge. Mais comme si on n'avait pas déjà été voir les sacrifices, comme si on n'avait pas déjà tout essayé. Et en plus, la loi me dit que je ne peux même pas me présenter devant le sacrificateur, à moins que je n'ai plus de lèpre sur moi et qu'il puisse authentifier ma guérison. Bref, il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser à ce moment-là. Et pourtant, ils obéissent. Et je parlais de la crainte de Dieu. Ils obéissent scrupuleusement au Seigneur et ils ont une attitude de respect exceptionnelle, extraordinaire. Alors qu'ils auraient pu se fâcher, alors qu'ils auraient pu dépasser les limites, La loi refusait qu'il puisse s'approcher de Jésus et il respecte la loi. Et en fait, moi, ce que je vois chez eux, c'est une révérence, c'est un profond respect. Un profond respect envers ce Jésus. Ils gardent leur distance. Et je crois, moi, qu'ils avaient la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est cet élément dont on a tous besoin dans notre vie. Réaliser qu'on est quelque part comme ces lépreux et qu'il est Dieu. Qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. On ne peut prendre aucune décision par nous-mêmes. On a besoin de lui. Cette crainte de Dieu, c'est un profond respect pour Dieu. On fait attention à notre vie. On fait attention à ce qui sort de notre bouche. Et quand quelque chose de mauvais sort de notre bouche, eh bien, on se reprend, on se corrige. Parce qu'on ne veut pas déplaire à Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce quelque chose qui fait que, waouh, on est émerveillé devant la grandeur de Dieu, devant la sainteté de Dieu, devant la justice de Dieu, devant la grandeur de Dieu. Et cette crainte de Dieu nous amène à nous tenir tranquilles, à notre place. On fait attention. On vit avec sobriété. C'est autre chose que ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Ésaïe en a parlé. Ésaïe dit « Quand ce peuple m'honore des lèvres, c'est Dieu qui parle, eh bien, il m'honore de sa bouche, de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et la Bible, la version Sommer, nous dit « La vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » Et j'aimerais vous dire, il y a plusieurs personnes, vous êtes dans des églises et on vous a enseigné un peu la crainte de Dieu, des règles que vous devez respecter. Et vous voyez les gens, comment ils se tiennent, comment ils s'habillent, etc. Et voilà, le protocole, et on se lève, on se rassoit, et il y a des choses, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, et par rapport au pasteur, etc. Et tout ça, toutes sortes de choses qui sont mises en place, et souvent qui sont bonnes. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur? Vous savez, on peut suivre un protocole très strict, être respecté, respectable dans une église, et à l'intérieur, avoir zéro crainte de Dieu. La crainte de Dieu est un élément indispensable dans nos vies, dans nos cœurs. Dans 2 Samuel au chapitre 6, au verset 6, vous vous souvenez, Ouza va tendre la main sur l'arche de Dieu et va la retenir parce que les bœufs ont glissé, il la faisait pencher. Alors qu'il transportait l'arche de Dieu. Et il s'est dit, l'arche de Dieu est en train de tomber, je mets ma main pour que l'arche ne tombe pas. C'était gentil, quelque part. C'était intelligent, c'était normal. Et la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et le frappa sur place à cause de sa faute. Et Ouza mourut là, près de l'arche de Dieu. Il a considéré cette arche de Dieu comme un objet, comme un meuble. Et il l'a touché. Et souvent, en fait, on n'a pas de crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on se permet de faire. La Bible dit, tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui pourra le faire tomber, car tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu. Il y a des choses qu'on se permet. On se permet de parler contre les gens. On se permet de faire certaines actions. On se permet de regarder certaines choses parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La Bible dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Un des bienfaits de la crainte de Dieu, c'est reconnaître la volonté de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, Jésus va te montrer la voie. La crainte de Dieu va également te permettre de rester sur la piste. Car la Bible dit « L'amitié ou les secrets de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Un des bienfaits de la crainte de Dieu, c'est cette amitié. C'est cette instruction que Dieu donne à ceux qui le craignent. Alors, l'instruction va te permettre de rester sur la piste par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle doit être dans ton cœur. La religion dit ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci. Mais la crainte de Dieu nous enseigne elle-même ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est agréable à Dieu. Et dans ce temps de prière qui nous reste, ces quelques minutes, j'aimerais t'encourager à sonder ton cœur et à considérer où est la crainte de Dieu dans ton cœur. Souvent, on est comme Ouza et on considère les choses de Dieu parce que c'est devenu une habitude, comme un simple meuble. Notre relation avec Dieu comme une simple relation. La Bible comme un simple livre. L'Église, un simple bâtiment. Les chrétiens, une simple famille. Le pasteur, un simple homme. Les promesses de Dieu, une espèce d'espérance. La crainte de Dieu te ramène à considérer combien les choses de Dieu sont précieuses et saintes. La crainte de Dieu t'empêchera de mettre Dieu à la dernière place, au dernier moment, quand tu as fini ta journée et que là, tu n'as plus rien à faire et que sur ton lit, oh, j'ai une pensée pour Dieu. La crainte de Dieu t'amènera à mettre Dieu en premier dans ta vie. La crainte de Dieu, c'est ce qui va te permettre d'avoir les yeux ouverts sur ta condition, sur le monde, sur l'Église, sur ses promesses, sur sa parole, sur l'Esprit de Dieu qui habite dans ton cœur et qui t'accompagne. La crainte de Dieu augmente ta capacité à voir. Et cette crainte de Dieu te donne des yeux pour la sainteté et te permet de refuser l'immoralité, l'impudicité, la souillure, la crainte de Dieu. Et je veux t'encourager à prier maintenant par rapport à cette crainte de Dieu. Demande pardon au Seigneur pour la crainte de Dieu qui a manqué dans ton cœur. Avec tes mots, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où même sans le réaliser, j'ai fait comme Ouza, j'ai considéré tes promesses, ta parole, ta présence, qui tu es comme quelque chose de normal, d'habituel, de naturel. Seigneur, pardonne-moi pour les chants que j'ai chantés qui étaient censés te vénérer, qui étaient censés t'adorer et je les ai chantés comme on pourrait chanter n'importe quoi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pris ta parole et je l'ai ouvert parce que juste fallait la lire, fallait l'ouvrir. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai prié sans penser à ce que je faisais et aussitôt la phrase terminée, j'avais oublié ce que je t'avais dit. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais en train de prier, de me concentrer, mon téléphone a sonné et je suis passé sur autre chose et je t'ai fait passer en dernier comme si t'étais quelqu'un d'exclu, comme si t'étais c'est lépreux. Pardonne-moi de mettre en premier dans ma vie des choses futiles que je considère comme importantes. Et pourtant, quand il s'agit de toi, je mets ça après. Père, je prie que la crainte pour ton nom, la crainte de Dieu, revienne dans les cœurs de ton peuple. Je prie que la crainte de Dieu ressuscite en nous. Je prie que ce même respect qu'avaient les lépreux au moment où ils auraient pu se jeter sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, en regard, en respect de la loi, en respect de l'autorité, en respect de ta présence, et se voyant si indignes, ils ont respecté, ils se sont tenus à distance tout en criant vers toi. Je prie que nous ayons au moins le respect, la révérence qu'ils avaient. Toi qui as dit « Approchez-vous de moi ». et je m'approcherai de vous. Père, je prie que cette crainte de Dieu s'installe dans le cœur de ton peuple. Je prie que cette crainte de Dieu s'installe dans le cœur de tous ceux qui font la louange dans les églises locales. Que plus personne, Seigneur, ne vienne pour t'adorer comme si c'était naturel, comme si ils allaient parler à une foule, à des gens, en oubliant qui tu es. Je prie, Père, que dans le cœur de ton peuple, tu deviennes tellement précieux. Je prie que oui, l'amitié avec toi, l'amitié de Dieu, puisse être vécue à nouveau comme la première fois dans le cœur de tous ceux qui choisissent de te craindre. Père, Libère ton peuple de tout ce qui peut l'empêcher de marcher dans la crainte de Dieu. Quand dans le désert, ils ont dit, mais où est ce Moïse? Où est ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte? Et qu'ils ont formé ce veau d'or. Père, permets-nous de ne jamais suivre leur exemple. Eux à qui tu as donné à manger, eux à qui, Seigneur, dont qui les pieds, les sandales à leurs pieds ne se sont pas usées, ils continuaient de murmurer. Permets-nous de ne plus murmurer, de ne pas murmurer. Permets-nous de ne pas laisser passer une journée sans au moins se mettre à genoux dans le cœur, sans au moins te parler avec sérieux. Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui veulent toucher, vous qui touchez ce char qui renfermait la présence de Dieu, ce qui symbolisait la présence de Dieu, et qui n'ont pas su considérer combien cette chose était sainte. Ô Saint-Esprit, révèle-toi d'une manière toute nouvelle, s'il te plaît. Combien ta parole est sainte et précieuse. Combien tes promesses sont véritables. Comment tu es digne d'adoration. Tu es digne qu'on te vénère. Tu es digne qu'on te glorifie. Tu es digne qu'on paye le prix, là où il faut payer le prix, pour que tu sois élevé, magnifié, que jamais personne ne lève le poing vers le ciel, ne lève le poing vers toi, que jamais personne n'ait l'arrogance d'imaginer qu'il est comme Dieu. Je prie que jamais personne, Seigneur, n'ait l'arrogance de croire qu'avec la foi, il peut aller au-delà de ta volonté. Que personne, à cause d'une doctrine humaine, religieuse, puisse se prétendre comme Dieu. Nous sommes tes fils, tes filles, tes serviteurs, tes esclaves, tes amis, ton épouse, et on veut rester à notre place. Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le seul vrai Dieu. Nous sommes tes serviteurs. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Marchez. Marchez. Marchez dans la crainte de Dieu.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Prières inspirées sur emcitv.com.